Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Un vilain défaut.
Tu travailles pour les services secrets français, tu es OSS 117. Tu as un numéro comme ces vaches que l'on conduit à l'abattoir.
Commencé en 1928, la ligne Maginot est maintenant terminée.
Jusqu'à 22h,
RTL.
Quoi ? C'est un gueux qui possède le château ?
Quoi ? Un gueux ?
Quoi, un gueux ? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa.
Gaumont, 120 ans de cinéma. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on vous raconte donc la saga de Gaumont qui fête ses 120 ans. Et pour en parler, Jean-Luc Douin, journaliste, critique cinéma, et Vincent Perrault qui prépare un doc sur ce thème pour France 5. On va commencer par se faire un petit plaisir. Tiens, l'acteur roi de la Gaumont, c'est lui.
Je viens à propos de la nuit du 12 au 13. J'aimerais que vous me parliez du commissaire Bertrand.
Mon mari est mort, monsieur.
On peut savoir comment ?
En service commandé.
Comment elle est partie ?
Oh, je vous en prie, on a retrouvé son corps sur la grande corniche. Des voyous l'avaient assassiné.
La douleur vous égare, chère madame. On a d'abord retrouvé le fringant poulet à l'hôtel Printania, en compagnie d'une pute.
Je ne vous permets pas.
Je m'appelle Antonio Cerruti. La pute était ma petite sœur.
Doublé par Vincent Perrault. Bonsoir,
Vincent,
à vous deux.
Bonsoir. Bienvenue, Jean-Paul Belmondo, dans Flic ou Voyou, évidemment, 1979. Jean-Luc Douin, dans votre livre 120 ans de cinéma Gaumont, qui est publié aux éditions de La Martinière, vous expliquez que ce film, signé Lautner, évidemment, entre dans le livre des records. Pourquoi ?
Parce que c'est le premier film de Belmondo à avoir dépassé 1 million d'entrées sur Paris périphérie. Et pour lui, ça représentait vraiment quelque chose. C'est pas le film qu'il a fait qui a eu plus d'entrées, mais ce record lui a apporté beaucoup.
Et pourquoi on peut dire que Belmondo, c'est l'acteur roi des studios Gaumont ou de la société Gaumont?
Je crois qu'on peut dire surtout que c'est l'acteur roi du cinéma du 20e siècle. Et forcément, connaissant Gaumont, il ne pouvait qu'être aussi l'acteur roi de Gaumont, mais il n'a pas fait tous ses films chez Gaumont.
Oui.
Mais c'est un modèle, c'est peut-être un des acteurs les plus doués de sa génération, sinon le plus doué. Quelqu'un qui était capable de jouer les classiques et qui a joué avec Godard, Melville, et puis qui a finalement opté de plus en plus pour un cinéma à divertissement, de plus en plus populaire. Et c'est quand même l'exemple même du panache, de la comédie, le genre d'acteur que la génération d'après s'est empressée d'égaler.
Oui, d'ailleurs, quand on écoute l'extrait de Flic ou Voyou, on avait entendu un tout petit extrait d'OSS 117 juste avant, on retrouvait des...
Ah, il y a comme un cousinage.
Ah,
entre...
comme un cousinage,
oui, c'est marrant. C'est un peu exprès.
Exactement, oui. Vous savez, c'est Henri Verneuil qui disait à propos de Jean-Paul Belmondo, c'est formidable d'avoir Belmondo devant sa caméra, parce qu'il peut vous faire une cascade et descendre et débouler une pente de 120 mètres et vous faire Shakespeare en arrivant en bas. Ça veut tout dire, hein.
Ah, il y a plusieurs phases dans l'histoire de la Gaumont. Dans les années 45-75, Gaumont, c'est plutôt synonyme de cinéma populaire, Vincent Perrault ?
Ah oui, oui, c'est vrai, parce que... Et tout ça grâce à un homme qui s'appelle Alain Poiret, qui est devenu... Alors, il avait un statut un petit peu particulier, producteur, mais producteur indépendant tout en faisant partie de la Gaumont. Enfin bon, ça, c'est de la popote interne. Mais c'était quelqu'un qui pensait que le cinéma devait être fait et conçu pour trouver le plus grand nombre de spectateurs et s'adresser. On faisait du cinéma pour qu'il soit vu. Donc ça voulait dire avec des grands réalisateurs, avec des grands comédiens, avec des sujets populaires, avec des choses grand public, mais toujours avec un souci aigu de la qualité. On le lui a reproché. En attendant, il a fait venir des millions de gens dans les salles.
Alors, cinéma populaire de la Gaumont, et pourtant, en 45, Jean-Luc Douin, la Gaumont est en liquidation judiciaire. Qu'est-ce qu'il va la sauver ?
Havas. La maison Havas, ainsi que quelques comptoirs de la photographie ou de la télégraphie plutôt. Mais c'est justement Havas qui place Alain Poiret. À l'époque, il est tout jeune, c'est un gamin, c'est un très 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 jeune homme. Mmh. Et le patron d'Havas qui place Alain Poiret a décidé que le cinéma c'est une affaire de jeunes, donc il fallait placer quelqu'un de très très jeune.
Donc c'est lui,
il voulait que des gens de moins de 30 ans, un truc comme ça. Hein. Il voulait vraiment que des très très jeunes pour dynamiser.
Et Alain Poiret est arrivé avec cette devise, fuir l'ennui.
Et alors pour fuir l'ennui, il va créer notamment la saga des Caroline Chéri. C'est la Gaumont aussi.
Ouais, c'est son premier grande réussite. Faut dire que Martine Carole à l'époque était quand même une des actrices assez étonnantes du cinéma français, pulpeuse, sexy, et vraiment c'est un projet qu'il a mené à bien. En plus, c'était pas gagné. Le film était en noir et blanc. Le film fait plus de 2h10, et Caroline Chéri a été un succès colossal. Et après, il y a eu des suites, le fils de Caroline Chéri et tout ça.
Il y en a eu trois.
Mais c'est un des fleuron et une des grandes fiertés d'Alain Poiret et qui a lancé aussi sa carrière de producteur. C'est-à-dire que tout le monde a compris tout de suite qu'il savait monter un film, qu'il savait ce que c'était, avoir l'instinct, avoir le nez, l'écoute de l'air du temps et savoir imaginer des grands succès. Ce qui est, quand on voit sa filmographie, c'est imposant, c'est incroyable de voir à quel point il s'est rarement trompé.
Et toujours dans ces décennies d'après-guerre, là on est sur les 120 ans de la Gaumont, il a bien fallu choisir. Hein. Donc là on est en train de s'intéresser à trois décennies, 45-75. Il y a aussi un dialoguiste inoubliable, un certain Michel Audiard.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours.
Welcome, sir.
Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Ça a pas pris une ride. Hein,
c'est... Je trouve fabuleux, c'est qu'on reconnaît les acteurs à leur voix. Quoi. Ouais, on n'a pas besoin de les voir.
Alors, on va en citer quelques-uns. Il y a Lino Ventura, forcément.
Il y a Jean Lefebvre.
Il y a Blié. Il y a Francis Blanche.
Voilà.
Bon, voilà.
Et Robert d'Alban. Yes, sir. C'est lui, hein, vous savez. Ah, c'est vrai, le majordome anglais.
Et qui dirige tout ça? Faut le rappeler. Qui est le réalisateur?
C'est Georges Lautner.
C'est le film qui le lance.
Oui, on peut vraiment dire ça. Oui, tout à fait. Succès qui sera suivi quelques temps plus tard des Barbouzes. Mais oui, je crois que Vincent sera d'accord. C'est les tontons flagueurs qui a vraiment lancé la carrière.
On commençait à parler de lui avec les monocles, avec Paul Meurice, avec cet aspect décalé du cinéma policier qui a trouvé vraiment, qui a éclaté en partie grâce à Audiard, qui a amené le piment, voilà, la recette de cuisine était complète grâce à Audiard et les tontons, qui a été un très grand succès en plus, très grand succès en salle à l'époque.
Évidemment, on ne peut pas, Vincent Perrault, parler des années 45-75 sans évoquer un acteur fétiche de la Gaumont, c'est Louis de Funès. Quels sont les films qu'il a fait avec la Gaumont? Les plus grands.
Jean-Luc,
il en a fait 5, je crois.
La Folie des Grandeurs est de
Gérard Horry. Il y a La Folie des Grandeurs. Sinon, c'est des films plutôt tirés de pièces de théâtre comme Hibernatus ou Oscar. Mais il a fait aussi Le Grand Restaurant et L'Homme Orchestre pour la Gaumont. Donc 5 films. C'est un emblème aussi, un emblème national, le polichinelle trépidant, l'homme qui pique des crises de nerfs, le Woody Woodpecker.
Ça se passait comment d'ailleurs les tournages, par exemple Louis de Funès avec Gérard Horry et Daniel Thompson qui le dirigeaient?
Daniel Thompson, elle écrivait plutôt les répliques, mais
bien sûr. C'est un duo père-fille.
Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est une association magnifique qui s'est créée et qui a duré longtemps. On pourrait dire aussi que c'est une des marques de Gaumont. On pourrait évoquer les duos, pas en mettant en scène les dialoguistes, mais les duos d'acteurs avec les films de Francis Weber, Gérard Depardieu, Pierre Richard, qu'on a trouvé comme ça sur toute une série de comédies.
C'est quoi la ligne directrice des films Gaumont dans cette époque de l'après-guerre?
Le goût, je crois, c'est vraiment le goût du divertissement et l'attention au goût du public. C'est une maison qui, au moment où Nicolas Sédoux a pris le contrôle de la société et à faire entrer Daniel Toscan du Plantier, a voulu aussi avoir toute une facette culturelle.
C'est la phase suivante, l'arrivée de Daniel Toscan du Plantier.
Mais avant et après, et même pendant la période de Daniel Toscan du Plantier, c'est une maison qui a toujours voulu soigner le divertissement populaire. Et d'ailleurs, lorsque Sédoux a fait venir Toscan du Plantier, l'homme qu'ils appelaient pendant cette période à Gaumont même le ministre de la Culture, il a voulu contrebalancer cette politique culturelle par la venue de Christian Fechner.
Pour garder la dimension populaire.
Ce qui est étonnant, c'est une société sans cesse à l'écoute de l'air du temps et écoutant bien, ça répondait. Et notamment, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas une autre société qui a aussi souvent utilisé les enfants et les jeunes. Et être à l'écoute de la société, c'est quand même être à l'écoute de la jeunesse. Mais ça commence commence avec La Cage aux Rossignols, Noël Noël, avec le film qui donnera plus tard Les Choristes. C'est-à-dire que dès la fin des années 40, on met des enfants à l'image, et Louis Feuillade, alors là on remonte au temps du muet, avait été le premier à dire: Jean-Luc, mettez un enfant dans un film, ça se vendra mieux. Mmh. Et ensuite ça a donné quoi? Mais La Gifle de Pinotto qui a révélé Adjani.
La Boum.
La Boum qui a révélé aussi. Sophie Morceau, c'est mmh. Gaumont aussi, c'est également Claude Pinotto.
Joli morceau, oui.
Voilà.
Joli lapsus, Vincent.
Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès.
Très joli.
C'est pour ça que ça, sinon je n'oserais pas. Hein.
Mais regardez L'As des As avec Belmondo, le petit garçon Rachid Ferrache, et un rôle extrêmement important également.
Ça, c'est passionnant. Donc, c'est une espèce de colonne vertébrale.
Ah, oui. La Belle et Sébastien.
Ouais. Vous voyez, Belle et Sébastien aujourd'hui, dont la suite va arriver très bientôt. Donc, ils n'ont jamais lâché l'affaire et essaient de comprendre, de connaître. Mais ça va même récemment jusqu'au Caïra. Qui aurait pu penser que Gaumont allait produire Les Caïra il y a encore 10 ans? Mmh. Bon, il y a une jeune femme à la tête de Gaumont aujourd'hui qui s'appelle Sidonie Dumas, qui essaie effectivement de continuer, de prolonger cette écoute, de faire du public.
Et même un peu en avance peut-être.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut, hein. Essayer d'être toujours un temps d'avance. C'est comme jouer aux échecs. Il faut avoir un temps d'avance si on veut gagner la partie.
Mais au fait, qui a créé ce géant du cinéma français il y a 120 ans? La saga Gaumont continue dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Et on vous retrouve sur RTL. On est désolé, il y a une petite coupure. Il y a El Naïm n'a pas pu aller au bout totalement.
Coupure de courant, ça arrive.
Mais ça arrive et c'est bien. C'est pour ça qu'on est en direct.
On
pour reprendre la main. Et continuez de vous raconter l'histoire de la Gaumont.
Avec Jean-Luc Douin qui publie 120 ans de cinéma Gaumont aux éditions La Martinière et Vincent Perrault qui prépare un documentaire sur la Gaumont.
Ah, je suis en plein tournage là.
Vous êtes épuisé, je vois que vous avez des cernes.
Je vous remercie, ça me fait plaisir.
Mais non, il a bonne mine.
À la radio, ça se voit pas.
C'est
et vous
voulez
vous
cacher. Un documentaire. On remonte aux origines, 1895. Qui est Léon Gaumont, le fondateur?
C'est étrange, c'est un homme qui travaillait comme fondé de pouvoir dans une société qui s'appelait le Comptoir Général de la Photographie.
Qu'est-ce que c'est ?
Une société vendant des appareils de photo, mais qui avait une espèce de prescience, un côté visionnaire. Quand il avait 17 ans, il avait écrit dans son journal intime... c'est-à-dire, vous notez bien, en 1880, le cinéma n'est pas inventé. Il avait écrit « L'image doit être animée, sonore, en relief, en couleur ».
Donc il pressent le cinéma,
il sent les choses et il veut être à la pointe du progrès. Donc en 1895, il rachète le Comptoir dont il était le fondé de pouvoir, il devient le patron. Et il va n'avoir de cesse que de suivre au fil des ans les progrès techniques pour être à la pointe.
Alors Jean-Luc Douin, c'est Gustave Eiffel qui va notamment l'aider, c'est lui qui lui met le pied à l'étrier, comment ça ?
Non, c'est-à-dire que quand il fonde sa société et quand il rachète ce Comptoir National de la Photographie pour le transformer en Gaumont et compagnie, il a besoin d'aide, il a donc des banques et puis deux grands industriels qui l'aident
financièrement
et pour fonder le conseil d'administration qui sont Gustave Eiffel et un dénommé
qui a déjà fait
Joseph Vallaud qui est le directeur de l'Observatoire du Mont-Blanc. C'est vous dire que Léon Gaumont veut monter haut et voit loin.
Alors le logo de la Gaumont, il est évidemment très reconnaissable, c'est cette fleur, cette marguerite. Pourquoi une marguerite?
Parce que la maman de Léon Gaumont s'appelait Marguerite.
D'accord.
Et donc, et vous savez, quand on a besoin de choisir un nom, on va généralement à l'essentiel, on va pas chercher très très loin. Et là, en l'occurrence, enfin, qui aurait pu prédire que cette Marguerite allait devenir aussi mythique?
Mais oui, c'est génial, ça n'a jamais changé, c'est toujours resté
voilà,
le logo.
On connaît
de cette
des tas de sociétés qui finissent à un moment par changer de logo, poussées par des designers ou je ne sais qui. Mais là, elle reste toujours, cette Marguerite est devenue un emblème national.
Alors, dans ces.
Toujours veillé à ce qu'elle soit sur les affiches, au générique des films.
Et puisqu'on parle de ce logo, de cette marguerite, je crois que dans votre documentaire, il y a un certain Patrice Lecomte qui parle de la marguerite. On va l'écouter, vous nous raconterez après.
Ok.
Le souvenir que j'ai de Gaumont, c'était déjà des films, ça m'amusait beaucoup, des films muets. Et dans les décors desquels, il y avait le jet de Gaumont et la marguerite qui figuraient comme une espèce d'estampille. Ça m'amusait beaucoup et je me disais quand même, une maison de production qui met son jet dans le décor, c'est quand même quelque chose. Donc j'avais infiniment de respect, comme on a, pardon, hein, c'est amical, mais comme on a du respect pour une vieille dame. Pour moi, Gaumont, c'était une vieille grande dame. Parce que Gaumont était né avec le cinéma, ou peu s'en faut. Donc il y avait ce côté éternel. C'est comme si Gaumont représentait le cinéma, comme si Gaumont était là depuis toujours.
C'est pareil pour vous, Vincent Perrault?
Oui, complètement. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est d'écouter Patrice Lecomte. Je vous ai choisi ce petit extrait que j'ai tourné il y a 4 jours. Hein. Personne n'a encore entendu ça, puisque je suis en pleine préparation de tout ça. Mais à chacun de mes intervenants, et je veux dire que je suis gâté parce que ça va être un générique assez époustouflant, très franchement.
Qui vous avez fait rêver pour parler des 120 ans de la Gaumont?
Daniel Thompson, qui va représenter son travail notamment avec son papa Gérard Houry et elle-même avec Alain Poiret. Patrice Lecomte donc. Moi, vous savez que j'aime beaucoup la musique de film, donc on va en parler. C'est déjà tourné avec Vladimir Cosma, avec Eric Serra, pour parler de la naissance de la musique du Grand Bleu. Isabelle Mergault, qui est devenue réalisatrice grâce à Gaumont, on l'oublie un petit peu. Jean-Claude Carrière, qui est lui, est dans la période Daniel Toscan du Planté, qui a signé les scénarii de Danton, d'Un amour de Swann. Non, je suis très très gâté. Jean-Loup Dabadie dans quelques jours. Pierre Richard qui vient de me dire oui. J'ai même eu Gérard Depardieu cet après-midi au téléphone, qui m'a pas dit oui, mais qui m'a pas dit non. Gérard, si vous nous écoutez, il faut me dire oui très vite.
Ça va être un très beau documentaire pour France 5.
Il va y avoir un monde fou. Mais tous mes intervenants, ma première question systématiquement, c'est de leur dire quelle était l'image que vous aviez de Gaumont avant de travailler dans la firme à la Marguerite. Et quel que soit, aujourd'hui, ce matin, j'ai tourné Jean-Claude Carrière qui a 80 ans, mais Isabelle Mergault qui en a beaucoup moins, et tout le monde a un souvenir de Gaumont dans sa jeunesse, ou les films du dimanche soir, ou au cinéma, ce qui montre bien que ce G, que cette Marguerite, font de nous tous des enfants de Gaumont d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas d'autres sociétés qui peuvent avoir cet impact sur nous, cette proximité avec nos souvenirs cinématographiques.
La société de cinéma Gaumont, créée par Léon Gaumont, nous sommes en 1895. D'ailleurs, Léon Gaumont, il est contemporain des frères Lumière. Ils sont concurrents, Jean-Luc Douin?
Pas vraiment, parce que quand les frères Lumière inventent le cinéma, Léon Gaumont se précipite pour aller leur racheter leur invention. Et les Lumières, eux, ne croient pas en l'avenir au spectacle du cinéma. Pour eux, c'est une invention qui fait avancer la science, mais pas du tout le spectacle. Et ils refusent de lui vendre leur appareil. Si bien que la tâche de Léon Gaumont, ça va être de trouver un technicien. Il va trouver un dénommé Georges Demeny, qui avait travaillé avec le dénommé Étienne Jules Marais, l'inventeur du fusil photographique, pour qu'il lui bidouille cet instrument que les Lumières vont pas voulu lui vendre.
Donc c'est-à-dire qu'il va avoir une copie,
une espèce de copie, c'est ça?
Il va réussir à lui fabriquer un appareil qui fait à la fois caméra et projecteur, et qui va très très vite donc pouvoir lui permettre de faire ce que les Lumières n'ont pas voulu faire.
On recevra bientôt Thierry Frémaux, qui est le délégué général du Festival de Cannes et le directeur de l'Institut Lumière à Lyon, qui est aussi le commissaire de l'Expo Lumière qui se tient au Grand Palais, expo passionnante, dans lequel on raconte cette anecdote des Lumières qui refusent de vendre leur invention à Léon Gaumont. C'est pas un inventeur, Léon Gaumont?
Non, c'est un visionnaire et un commerçant. Hein.
Il a l'intuition
il met jamais la main à la pâte
pour salles,
fabriquer les appareils. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est développer ce secteur, vendre des appareils, et puis ensuite fabriquer des films, les projeter, vendre des films, développer des salles, les mieux possibles.
Oui, mais finalement,
je crois pas que c'était pas vraiment un artiste, mais il faut pas non plus lui jeter la pierre, parce que Gaumont aujourd'hui sont des commerçants aussi, hein. Ce qu'ils veulent, c'est rentabiliser, gagner de l'argent, mais faire du cinéma de qualité. Si depuis le départ le cinéma est une industrie, c'est pas non plus complètement par hasard, sauf qu'il y a aussi de temps en temps des tempéraments qui sont aussi des gens qui ont le sens du commerce, mais qui ont le sens de l'art et qui savent très bien allier les deux. Alors que Gaumont n'ait pas été un artiste immédiatement, c'est pas très grave au final, puisqu'il avait une secrétaire qui s'appelait Alice Guy, qui elle était beaucoup plus artiste que lui, croyait énormément dans l'affaire et lui disait: Monsieur Gaumont, je parle sous le contrôle de Jean-Luc, j'aimerais faire des films. Attendez, on est au tout début du siècle là, hein, donc je vous parle de...
Donc la secrétaire de Gaumont,
et Gaumont lui répond en gros: si vous voulez, mais en dehors des heures de travail, mademoiselle.
Ah, bien sûr.
Et c'est quand même comme ça.
Il y a du courrier à taper quand même.
Mais évidemment. Oui. Mais elle est devenue la première femme réalisatrice, non seulement française, mais même au monde.
C'est quoi son
film? Et elle en a réalisé des centaines.
La fée aux choux.
La fée aux choux, ça raconte quoi, la fée aux choux? Enfin, ça montre quoi?
C'est une fée qui se balade dans un jardin potager et qui recueille des nourrissons dans les...
Ah, c'est mignon.
Et c'est un film qui aura du succès, la fée aux choux?
Si vous voulez.
Un petit succès.
Alice Guy, elle réussit à convaincre Léon Gaumont de tourner ses films. Pourquoi? En lui disant: pour vendre vos appareils, il faut montrer aux éventuels acheteurs qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mmh. Et donc, ces premiers films, en fait, sont moins destinés à être projetés comme spectacle, comme élément publicitaire, si vous voulez. Et donc, progressivement, elle va tourner plus de 100 films.
Et dans votre livre, 120 ans de cinéma, publié aux éditions La Martinière, j'ai vu qu'elle avait fait le premier péplum de l'histoire aussi.
Oui, la vie du Christ. La vie du Christ, d'ailleurs, tout le monde l'a fait chez Pathé, aux États-Unis, chez Méliès et tout ça. Mais la version d'Alice Guy est sans doute la première, et c'est sans doute ça d'ailleurs qui va lui coûter son poste à mon avis, parce que le film a coûté tellement cher.
C'est trop figurant. C'est là, vous voyez, où l'art et l'industrie se rejoignent à un moment donné.
Diriger le département Gaumont aux États-Unis.
Mais et curieusement, c'est ce qui s'est passé bien des années plus tard pour Daniel Toscan du Plantier, qui est arrivé avec des idées géniales à la Gaumont, qui a fait des films qui sont des vrais chefs-d'œuvre, mais des films qui ont parfois coûté beaucoup d'argent, qui n'en ont pas rapporté autant qu'on l'espérait. Oui. Et un jour, on a fini même Toscan du Plantier par le remercier. Voilà, donc, vous voyez,
c'est aussi du commerce.
C'est un art et une industrie.
C'est ça.
Mais en tout cas, on avait l'air. Je crois que le fait d'être commerçant, c'est loin d'être une injure.
Bien sûr.
Il a eu le sens aussi de faire travailler les gens qu'il fallait travailler. Émile Cole, par exemple, c'est grâce à Léon Gaumont que ce type a inventé le premier dessin animé français.
Et parmi les autres histoires passionnantes à découvrir, il y a celle des actualités Gaumont, les actualités filmées. On vous les raconte dans un instant, restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
RTL. La petite sœur vient ici, crac, elle se retrouve au ciel. Le commissaire Bertrand, pareil. Alors je me suis dit, c'est l'endroit qui est pas bon.
Des régiments traversent la ville avant d'aller rejoindre leur poste.
La curiosité est un vilain défaut.
Merci la gueuse, tu es un laidron mais tu es bien bonne.
T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote?
Elle est goulayante cette villa.
Jusqu'à 22h, Gaumont, 120 ans de cinéma. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Heureusement qu'on se parle pas comme ça, Thomas.
Non, c'est beaucoup.
Vous savez que la réplique qu'on vient d'entendre de Marianne Chazelle dans Les Visiteurs, t'as pas vu ton pif et tout ça, c'est authentique, ça, c'est une réplique. C'est Gabin qui a dit ça à Robert Dalban.
Et ça a été repris dans Les Visiteurs. Jolie, très belle citation, très belle anecdote signée Jean-Luc Douin qui publie 120 ans de cinéma Gaumont aux éditions La Martinière. Quand on dit Gaumont, on pense cinéma, mais on pense aussi actualité filmée. Quand est-ce que ça a commencé, ça, Jean-Luc Douin ?
Les premières actualités filmées, c'était en 1910. Effectivement, donc toujours à la pointe, il crée ce département, envoie des opérateurs sur faire des reportages, il couvre la politique, l'actualité sportive, mondaine, culturelle.
C'est la chaîne Tout Info avant l'heure, quoi, c'est
ça ? Vraie rédaction, c'est ça ?
Une vraie rédaction, et ça va s'arrêter avec la télévision qui va créer une vraie concurrence à ça,
Donc ça va durer jusqu'à quand ?
Je crois que dans les années 60.
Ah oui, je crois que ça a quand même tenu un petit peu. Mais il faut se souvenir qu'à part la radio et la presse écrite, il n'y avait pas de façon de connaître l'information et surtout pas visuellement. Et quand on allait aussi, on a un peu oublié
donc
parce qu'on
les voyait quand ces actualités. On les voyait au cinéma.
C'est au cinéma, évidemment. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va voir un film en vitesse. On arrive pendant les bandes annonces ou les pubs ou tout ça. On fait plus très attention. C'est devenu un produit de consommation très courante. Mais n'oublions pas que dans ces années-là, aller au cinéma, c'était une sortie familiale.
Donc on allait voir aussi les actualités.
Mais on allait voir des spectacles, on allait voir des attractions sur scène, on allait voir effectivement les pubs, mais aussi les actualités, les bandes annonces et le grand film, parfois même deux films dans le même programme. Ça pouvait vous prendre la journée entière.
Génial.
Ah oui.
Des actualités qui ont continué d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin sur son propre sol. Le peuple polonais qui a vu ses enfants mourir, ses villes détruites, ses hommes tués ou emmenés en captivité, le peuple polonais n'oubliera pas.
C'est une actualité qui date de 1945, qui résume en quelque sorte la guerre. Jean-Luc Douin, que se passe-t-il pendant l'occupation ? Qui contrôle les actualités Gaumont ?
C'est compliqué parce que l'occupant veut les contrôler. Donc en fait, il y a deux types d'actualités. Celles qui sont projetées en zone libre, qui sont libres, et celles qui sont projetées en zone occupée et qui, elles, tournent à la propagande. Donc,
tout d'un coup, deux rédactions, c'est ça, différentes ?
Bien sûr.
Deux propos, deux propagandes.
Mais c'était pareil pour le cinéma d'ailleurs. Mmh. Il était très difficile à l'époque que des producteurs indépendants arrivent à tourner. Il fallait aller en zone libre. On pense évidemment aux Enfants du Paradis où il fallait revenir à Paris, repartir. On n'était plus libre de ses moyens. Mais parce qu'il y avait la société, la fameuse Continental, gérée par un Allemand qui heureusement avait le sens de la culture et l'amour du cinéma. Mais ça a été extrêmement compliqué pendant toutes ces années-là, que ce soit pour les actualités ou pour les longs métrages.
C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Pagnol signe avec la Gaumont.
Oui, alors justement, lui, par refus de devoir travailler avec les Allemands, il préfère arrêter de tourner. Il vend son catalogue à Gaumont, qui en aura l'exclusivité. Hein, tous les films Pagnol seront distribués par Gaumont. Et du coup, Gaumont va récupérer les studios et les laboratoires de Pagnol en Provence, qui leur permettra de tourner, eux, en zone libre, sans être embêtés par les Allemands.
En quoi Pagnol, Marcel Pagnol, c'est un pionnier du cinéma?
Ben c'est quasiment lui qui a inventé le tournage en plein air. D'une certaine manière, c'est un des pionniers de la nouvelle vague.
C'est-à-dire qu'avant lui, on tournait en studio, c'est
on
ça
On tournait en studio.
Et même après lui et pendant lui.
Invente les micros et des bandes son dans lesquelles on entend le bruit des cigales.
Mmh. Mais on oublie que Pagnol était un inventeur. Il a dessiné des prototypes de voitures. Il a inventé des choses absolument incroyables. Et c'est un auteur avant tout, évidemment, auteur de théâtre, auteur tout court, mais qui s'est intéressé au cinéma en disant que ça pouvait être un prolongement assez incroyable de son œuvre et ce qu'il a fait, et c'est d'ailleurs ce côté un peu artisanal de sa cinématographie qui a donné cette authenticité et cette vérité à ses propres films.
Et d'accord, la richesse de l'œuvre de Pagnol est telle qu'on a déjà consacré une partie d'émission à l'écrivain, au romancier, et on va en consacrer une autre au mois de juin au cinéaste Marcel Pagnol, parce qu'il y a évidemment plein d'histoires passionnantes.
Il y a une continuité
à raconter.
Dans l'histoire de Gaumont, il y a une vraie continuité. On a vu Caroline Chéry, on le verra plus tard avec OS 77. Et Pagnol, on voit que Gaumont restait fidèle au romancier cinéaste en produisant les films d'Yves Robert, puisque Le Château de ma mère et La gloire de mon père ont été refait des années plus
mais
tard.
Yves Robert a été très opiniâtre, hein. Il voulait faire ce diptyque depuis très très longtemps. Il était même allé voir Marcel Pagnol en lui disant « je voudrais faire ces films-là » et Pagnol lui avait dit « c'est impossible, pensez bien mon cher Yves Robert que si c'était possible à adapter, je l'aurais fait moi-même
». Bien sûr.
Et comme quoi vous voyez finalement, hein, ça fait partie des grands succès de la Gaumont, ces deux films-là.
Je propose de faire un saut dans le temps, c'est un peu frustrant mais on va devoir le faire. Pour parler de Gaumont aujourd'hui, c'est un géant français ou un géant international?
Moi, je crois que c'est un géant français, même si il y a eu des périodes, entre autres au moment de l'arrivée de Seydoux.
C'est le nouveau patron, c'est Nicolas Seydoux.
Maintenant, le patron, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on dise que c'est une vieille dame, parce que la patronne de Gaumont, c'est une jeune femme.
C'est une jeune femme séduisante, effectivement,
qui s'appelle Sidonie Dumas. son pouvoir s'étend surtout sur le territoire français, c'est sûr que. Et il est conséquent, puisqu'on peut dire que Les Visiteurs, c'est elle, Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, La Jeanne d'Arc, les films de Le Dîner de Cons de Francis Weber, et c'est à elle qu'on doit un tout qui est le champion
toute catégorie, toute catégorie, oui, du box-office français. Le tournage des Visiteurs 3 a commencé il y a moins d'une semaine, donc c'est vous dire qu'on est encore complètement...
Les 5 Césars de Guillaume Gallienne, c'est elle aussi.
Ah oui, Guillaume et les garçons à table,
c'est absolument. C'est impressionnant, Gaumont. Vous vous rendez compte, Gaumont est né avec le cinéma, ça a commencé par une entreprise familiale et ça l'est encore aujourd'hui. Et la société a eu des crises, des hauts, des bas, mais elle est toujours là avec un succès qui ne se dément pas. C'est vraiment un cas unique dans l'univers du cinéma. Qui peut dire né avec le cinéma? Gaumont. Oui. Et que Gaumont.
Oui. Et on vous citez souvent dans votre livre, et on l'a cité ce soir forcément, Daniel Toscan du Plantier, qui a été l'un des hommes forts de Gaumont pendant plusieurs années.
Ouais, une dizaine d'années.
Il disait « La France doit être le pays leader du cinéma non américain ». Est-ce que cette ambition, elle est toujours présente chez Gaumont aujourd'hui, Jean-Luc Douin?
Oui, mais moins marqué, parce que vraiment, à ce moment-là, si vous voulez, il y a eu une véritable tentative. D'abord, de représentation du cinéma européen, on l'a vu pendant cette période-là. Toscan a fait tourner tout le monde. Spielberg, Bergman, Fellini, Antonioni, Werner Herzog, ça a été incroyable. Tout le gratin du cinéma mondial, pas américain, mais européen, est venu chez lui. Et donc là, ça a été très très fort. Et puis, depuis, il faut bien reconnaître que la stratégie est quand même plus nationale.
Et elle s'est recentrée sur la France. Merci beaucoup. 120 ans de cinéma Gaumont. C'est publié aux éditions La Martinière. Vincent, votre doc, il est prévu pour quand sur France 5
En fin d'année, vraisemblablement période de fin d'année. Bon. Et ça va s'appeler Gaumont en effeuillant la marguerite.
Ah, c'est joli.
Mais vous continuez Stop ou Encore tous les week-ends.
Ah, mais évidemment, oui. Il y a des cohabitations qui fonctionnent très, très bien.
Et puis, une exposition au spectacle à l'occasion de cet anniversaire au 104 Paris. C'est dans le
9e magnifique.
Arrondissement de Paris, ouais. Évidemment. Et 19e. C'est à voir. 19e arrondissement, bien sûr, le 104. Pardon. Et c'est à voir jusqu'au mois d'août. Merci à vous deux.
Vous écoutez RTL.